Laudetur Jesus Christus.
C'est une première dans l'histoire et nous allons la suivre ensemble. Vendredi, le pape François s'envole pour l'Irak. On en parle dès aujourd'hui avec le cardinal Leonardo Sandri, préfet de la Congrégation pour les Églises orientales. Nous commencerons avec les enjeux et les attentes de ce voyage dans le berceau du christianisme. Deuxième dimanche de carême hier, depuis la fenêtre du palais apostolique, François a commenté le mystère de la transfiguration, un épisode qui nous rappelle que la victoire de la résurrection succédera aux épreuves de la vie. Nous y revenons juste après les titres. François qui suit de près la situation sécuritaire au Nigeria. 317 jeunes filles enlevées ce jeudi sont toujours dans les mains de leurs ravisseurs. La coupe est plus que pleine pour les évêques du pays. Ils publient un message et invitent l'État central et la société à un sursaut. Le procès de l'ancienne dirigeante birmane Aung San Suu Kyi doit s'ouvrir aujourd'hui, alors que débute une nouvelle semaine de manifestations contre le coup d'État en Birmanie. Hier, c'est l'horreur qui a pris le dessus. 18 personnes sont mortes en marge des rassemblements, selon les Nations Unies.
Radio Vatican, le journal, Marine Henriot.
Bonjour, un avant-goût de Pâques au cœur du carême, c'est ce que nous offrait hier l'évangile avec le récit de la transfiguration rapporté par saint Marc. Le pape François en a donc parlé lors de l'Angélus prononcé depuis la fenêtre du palais apostolique. Cet épisode de la vie de Jésus témoigne par anticipation de la victoire de la résurrection et nous invite à transmettre dans le monde la lumière de la foi. Adélaïde Patrignani.
À ses trois disciples sur le mont Tabor, le Seigneur montre déjà son image de ressuscité. Pour les fidèles d'aujourd'hui, c'est une espérance dans les moments difficiles. Le Christ, a rappelé François, ne permet pas aux ténèbres d'avoir le dernier mot. La mort ne sera pas la fin de tout. Elle s'ouvrira à la gloire de la résurrection. Face au mystère de la souffrance, devant le scandale de la croix et les exigences de l'Évangile, nous pourrions rester effrayés. L'on doit alors gravir la montagne, contempler la beauté du ressuscité et laisser sa lumière filtrer dans notre vie. Mais attention, avertit le pape, il faut penser à redescendre, du réalisme en somme.
Pregare non è mai evadere dalle fatiche della vita.
Prier, ce n'est jamais échapper au labeur de la vie. La lumière de la foi n'est pas pour une belle émotion spirituelle, a souligné François, qui a aussi mis en garde contre la paresse spirituelle. Nous sommes bien avec nos prières et nos liturgies, et cela nous suffit. Non, ce que Jésus donne lorsqu'on demeure près de lui est fait pour être partagé. Allumer de petites lumières dans le cœur des gens, être de petites lampes de l'Évangile qui apportent un peu d'amour et d'espoir, telle est la mission du chrétien, a conclu le Saint-Père.
Adélaïde Patrignani. Après la prière de l'Angélus, François a rappelé que se tenait hier la journée mondiale des maladies rares. Le pape en a profité pour encourager les initiatives qui soutiennent la recherche et les traitements. Avant d'exprimer sa proximité avec les patients, les familles et surtout les enfants touchés par ces maladies rares. Le Saint-Père qui a également évoqué l'enlèvement au Nigeria de 317 jeunes filles par des bandits. Le kidnapping a eu lieu dans la nuit de jeudi à vendredi. Jeudi dernier, des hommes armés ont fait éruption dans les dortoirs des jeunes filles avant de les y arracher et de les emmener dans un endroit inconnu. Leurs parents et familles sont toujours sans nouvelles d'elles. Je joins ma voix à celle des évêques du Nigeria pour condamner ce lâche enlèvement, a déclaré François. En effet, ce dernier enlèvement de masse a fait réagir les évêques catholiques du pays. Dans un message diffusé hier, ils évoquent un Nigeria à la dérive entre chaos sécuritaire et velléité sécessionniste. La situation invite à un sursaut de toute la société autour d'un objectif commun, suggèrent les évêques, qui rappellent également l'État central à ses devoirs. Xavier Sartre.
Nous sommes au bord d'un effondrement imminent. La survie même de la nation est en jeu. Les évêques nigérians, Marie, ne cachent pas leur appréhension et la mise en garde est solennelle. La grave insécurité dont le Nigeria est le théâtre a donné la triste et dangereuse impression que ceux qui ont assumé le devoir et l'autorité de sécuriser la nation sont incapables ou pire encore, peu désireux d'assumer les responsabilités de leurs fonctions, écrivent les évêques. Parmi les maux qui affligent le Nigeria, les revendications autonomistes, voire sécessionnistes sur base ethnique portées par certains milieux et qui ne sont pas appréciées prendre à la légère, estime-t-il. Mais rien d'étonnant, en fait, reconnaissent-ils, que des acteurs non étatiques comblent le vide créé par un échec palpable du gouvernement. L'équipe dirigeante est donc appelée à gouverner la nation non pas en fonction de préjugés ethniques et religieux, mais selon des principes objectifs et positifs de justice, d'équité et surtout d'impartialité. La construction de la nation nigériane exige, selon eux, des sacrifices et une volonté de rechercher un objectif commun avec sincérité, de gérer au mieux les différences et d'en tirer une force qui soit positive et non négative. Ils appellent aussi à davantage de dialogue entre les autorité le peuple et entre les citoyens eux-mêmes, au-delà des diversités et identités ethniques.
Merci Xavier Sartre. Toutes ces informations sont à retrouver sur notre site internet. Je vous rappelle l'adresse www.vaticannews.va où vous pourrez également vous abonner gratuitement à notre bulletin d'information quotidien dans votre boîte mail. En Birmanie, une nouvelle semaine de contestation s'est ouverte ce matin, mais la répression a pris une tournure violente. Les forces armées, qui jusqu'ici se tenaient à l'écart des manifestants, appliquent dorénavant l'une des règles de la loi martiale instaurée dans l'indifférence générale il y a quelques semaines. Ils annoncent qu'ils briseront tout rassemblement de plus de 5 personnes, mais cela ne suffit pas à arrêter les Birmans. Sur place, Juliette Verlin.
Le bilan de la journée d'hier est le plus sanglant depuis le coup d'État du 1er février. Au moins 18 personnes ont été tuées lors d'épisodes de répression violente dans le pays, dont 4 à Rangoon. Sur Twitter, le cardinal Charles Mangbo a qualifié le pays de champ de bataille. Gaz lacrymogène, grenades assourdissantes et tirs à balles réelles ont été utilisés pour disperser les manifestants toute la journée. Aujourd'hui, un mois après le coup d'État, Rangoon s'est réveillé avec des restes de barricades dans les rues, montées la veille par des manifestants pour entraver l'avancée des forces de police. Pendant la nuit, les bulldozers de l'armée se sont frayés un chemin et la circulation a repris presque normalement. Malgré le traumatisme de la journée d'hier, les rassemblements ont repris ce matin dans toute la ville. Les manifestants casqués, certains avec des boucliers faits maison ou des masques à gaz, continuent d'interpeller la police et à crier leur colère. À Ledan, devant l'école où un jeune homme a été tué par la police hier, les habitants viennent se recueillir et déposer des fleurs. Le procès d'Aung San Suu Kyi devrait s'ouvrir aujourd'hui à Naypyidaw, la capitale, mais personne n'est vraiment sûr de l'heure à laquelle il aura lieu. Son avocat n'a toujours pas été reconnu par le gouvernement militaire et il déclarait il y a quelques jours qu'il n'avait toujours pas pu l'avoir.
Juliette Verlin, Rangoon, Radio Vatican.
Et l'avocat de la dame de Rangoon vient tout juste de s'exprimer. Celle-ci comparaîtra en vidéoconférence devant la justice. Un procès à suivre dans la journée. Manifestation également en Thaïlande hier. Des manifestants pro-démocratie se sont rassemblés à Bangkok devant la résidence du Premier ministre et ancien chef de l'armée. Ils étaient environ 2000 pour réclamer sa démission. La journée s'est terminée en affrontement entre les manifestants et la police qui a tiré des balles en caoutchouc et fait usage de canons à eau. À noter que c'est la première fois depuis plusieurs mois que la police anti-émeute recourt à la force. Aux États-Unis, Donald Trump faisait hier son grand retour sur la scène politique. L'ex-président était à la tribune de la CPAC, le grand rassemblement annuel des ultra-conservateurs à Orlando, en Floride. Peu de masques, beaucoup de casquettes rouges dans la salle. Donald Trump y a prononcé son premier discours depuis son départ de la Maison Blanche et le message est clair, l'Amérique n'en a pas fini avec lui. À New York, Loïc Loury.
Plus d'une heure de retard, mais Donald Trump savoure quelques minutes en arrivant sur scène face à une foule déjà conquise, puis délivre rapidement son message. Nous avons traversé cette aventure comme personne n'en avait connu. Jamais une aventure n'avait été couronnée de tant de succès. Nous l'avons débuté ensemble il y a 4 ans et c'est loin d'être terminé. L'ex-président est toujours là et c'est lui qui tient le manche du parti républicain, laisse-t-il entendre, condition d'une victoire à la présidentielle de 2024, pour laquelle il n'écarte pas sa candidature.
Who knows? I may even decide to beat them for a third time, okay?
Qui sait, dit-il énigmatique, tout en dénonçant une fois encore une élection truquée, car le discours est inchangé, les fake news, l'immigration, l'extrême gauche et l'incompétence de Joe Biden, égare à ceux qui ne le suivraient pas, suggère-t-il en jetant en pâture au public les noms des républicains qui avaient voté son impeachment.
Lisa Murkowski, Pat Toomey.
Pour l'instant, et malgré les divisions, le parti écoute sans trop faire de bruit, contraint et forcé par la popularité presque intacte de l'ex-président. New York, Loïc Loury, Radio Vatican.
Dans 4 jours maintenant, le pape François s'envolera pour l'Irak. Un nouveau voyage apostolique après 15 mois sans pouvoir quitter le Vatican pour l'étranger en raison de la pandémie de Covid-19. Du 5 au 8 mars, ce voyage se déploiera autour du thème « Vous êtes tous frères » et sera largement inspiré par le thème de la fraternité humaine dans la dynamique de sa dernière encyclique « Fratelli Tutti ». Cette visite mènera le Saint-Père de Bagdad à Erbil au Kurdistan irakien en passant par Our, la ville d'Abraham, mais aussi par la plaine de Ninive dans le nord du pays, à Mossoul et à Karakoche, où vivent des communautés chrétiennes importantes. En 2000, année jubilaire, souvenez-vous, le pape Jean-Paul II n'avait pas pu se rendre en Irak malgré sa volonté. 20 ans plus tard, l'attente est donc immense chez les Irakiens, à commencer par les chrétiens du pays, dont la présence s'est fortement réduite en raison de la guerre et des persécutions comme celle de Daesh. De passage dans nos studios, le cardinal Sandri, préfet de la Congrégation pour les Églises orientales, nous explique quelle est la portée de ce voyage.
Pour moi, c'est un geste du pape qui a une grande importance pour la société civile, pour l'Irak, pour la nation irakienne, mais surtout pour nos frères chrétiens, parce qu'ils ont été protagonistes d'une espèce de réalité évangélique qu'on croyait déjà oubliée dans le passé et qu'ils ont vécu avec une grande paix, sérénité, souffrance, la guerre, les bombardements, l'État islamique, la persécution, les attentats terribles comme celui de Bagdad dans l'église syro-catholique avec 48 morts. Et tout ça, c'est une espèce de témoignage pour le monde entier. Et voilà que même dans cette situation difficile, de terribles souffrances pour les chrétiens, nous étions fidèles à l'Évangile. Nous étions restés fidèles à Christ. C'est plutôt le témoignage que l'Irak chrétien, les Irakiens, offriront à nous, au monde entier, au monde occidental qui vit dans des autres préoccupations et qui quelquefois oublie que nos frères sont en train de recevoir toutes ces souffrances dans leur vie.
Un voyage d'autant plus attendu qu'il y a un peu plus de 20 ans, Jean-Paul II avait failli aller en Irak et finalement ce voyage n'avait pas pu avoir lieu. Donc l'attente, j'imagine, sur le terrain, dans le pays, est très très forte. Vous la sentez ?
Oui, je le sens et je désirerais beaucoup que ce soit un voyage de joie. De joie pour tout ce que vous avez dit, l'attente qui est née avec le désir de Jean-Paul II pour le jubilé du 2000, la terre d'Abraham, aller aux sources de notre foi. Et je me rappelle très bien tous les efforts aussi après, quand on a pensé à bombarder l'Irak, le pape Jean-Paul II a envoyé le cardinal Tchegaray pour parler avec Saddam Hussein et tout ça. Donc, maintenant, la visite du pape vient remplir cette attente, la remplir avec la joie, l'espérance à dire, écoutez, on peut construire un monde nouveau, pas seulement parce que nous avons l'Évangile, mais aussi avec nos frères des autres religions. On peut construire un monde nouveau. Et alors le pape porte cette joie aussi avec ces grandes fleurs de son pontificat, qui est la déclaration d'Abu Dhabi, et l'encyclique Fratelli Tutti, tous frères et sœurs.
Souvent, bien entendu, il y a des drames, malheureusement. Là, il s'agit de montrer que ces chrétiens d'Orient participent à la reconstruction d'un pays, notamment à Mossoul, par exemple. Est-ce que vous avez bon espoir que ces communautés soient vues de manière différente, plus visible, après ce voyage du pape François ?
Oui, je pense que les voyages du pape mettraient en lumière, justement, la présence chrétienne. En premier lieu, de nous-mêmes, nous, chrétiennes, nous sommes des citoyens comme les autres. Nous travaillons pour le bien commun. Donc, tout ce que fait l'Église, que font les chrétiens, c'est pas pour des égoïstiques finalités, mais c'est pour la construction du pays, les écoles, la promotion humaine de l'homme, de la femme, des enfants, tout ce qui touche la santé publique. Tout ce qui fait l'Église, c'est pour construire le pays.
Et puis ce sera le premier voyage du pape François depuis plus d'un an. C'est aussi un symbole, le pape en sortie dans
une... Pour moi, c'est une espèce d'exorcisme de la pandémie avec les voyages. Bien sûr, nous ne serons pas à Rio de Janeiro, mais ce sera un voyage plutôt avec la multitude des cœurs qui s'unissent au pape, même si les personnes physiques ne sont pas là.
Voilà, interrogé par Olivier Bonnel, le cardinal Sandry était ce matin notre invité. Prochain retour de l'information tout à l'heure à 13h. Je vous souhaite une très belle journée.